بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, le dimanche, le 20 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 8 février 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture du livre de Cheikh l'Allama Hafid al-Hakami, qu'Allah lui fasse miséricorde, intitulé « A'lam al-Sunnah al-Manshura », dans lequel il a posé des questions en leur donnant des réponses qui concernent toute la croyance de Al-Sunnah al-Jama'a, la croyance authentique. Et donc, ces questions sont au sujet, principalement, au sujet des six piliers de la foi, qui constituent les fondements de la foi islamique et de la croyance de l'islam, les six piliers de la foi. Et là, on s'était rendu à la 112e question de ce livre, dans laquelle l'auteur, rahimallah, dit « Ma dalilu nafkhi fi s-sur wa kam nafakhatin yunfakhu fih » Quelle est la preuve au sujet du soufflement dans la trompe ou le corps. Oui, il y en a qui traduisent par la corne. Quelle est la preuve au sujet du soufflement dans la trompe? Et quel est le nombre de ces soufflements? Quel est le nombre de ces soufflements? Au sujet de la preuve, il a cité en premier le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nufikha fi s-suri fa sa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ardi illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Donc, dans le sens approximatif, et il y a des versets qui sont similaires à ce verset, il y a plusieurs versets qui sont similaires à ce verset dans le Coran. Donc ce verset, il est dans Surat Zumar. « وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ » Surat Qaf, dans Surat Yassin, Allah Azza wa Jalla dit « وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ » Donc le sens approximatif de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il sera soufflé dans la corne, tous les êtres qui peuplent les cieux et la terre seront foudroyés, à l'exception de ce que Allah voudra épargner. Au second soufflement, les morts se lèveront, regardant et attendant de connaître leur sort. Donc vous voyez que dans ce verset, les deux soufflements sont explicitement mentionnés. Le premier, qui mettra fin à toute forme de vie, sauf les créatures dont Allah subhanahu wa ta'ala fera exception. Yani, ça c'est le premier, la première fois, il sera soufflé. Bien évidemment, celui qui accomplira cette tâche du soufflement dans la corne, c'est l'ange Israfil. L'ange Israfil, un des trois meilleurs anges, des trois meilleurs parmi tous les anges. Jibril, wa Mikaïl, wa Israfil. Donc celui qui est chargé de cette mission, c'est Israfil. Donc il sera soufflé une première fois. Tous les êtres seront foudroyés et morts. Et il sera soufflé une deuxième fois après une très longue période que Allah connaît, subhanahu wa ta'ala. Après, au second soufflement, les morts se lèveront et ça sera la résurrection. Donc, dans ce verset, nous voyons qu'ils sont mentionnés deux soufflements dans la corne. Deux soufflements dans la corne. La première, c'est le soufflement de foudroiement. Et le deuxième, c'est le soufflement de la résurrection. Il faut savoir qu'il y a certains savants qui disent qu'il y a trois soufflements. Mais la plupart des savants disent qu'il y a deux. Ce sont ceux-là qui sont mentionnés dans ce verset explicitement. Là, ceux qui disent qu'il y en a trois, ils disent qu'il va y avoir un premier soufflement avant le soufflement de la fin des temps. Un qui va le précéder et qui va être la cause de frayeur, mais les êtres ne vont pas en mourir. Et après, il y aura le deuxième soufflement qui va signaler la fin des temps, et ensuite le troisième de la résurrection. Lakin, faut savoir que la plupart des savants disent qu'il y a deux soufflements, et ça c'est ce qui est mentionné dans la plupart des textes. Et l'auteur rahimallah a cité également le hadith, un très long hadith qui est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, dans lequel le prophète alayhi salam a parlé justement du soufflement dans la corne. Et il a dit « Fala yasma'uhu ahadun illa asra litan wa rafa'a litan » Chaque personne qui entendra ce soufflement, elle va pencher son cou comme ça pour essayer de bien entendre. Et en penchant son cou, elle tombe sur le côté. Et le prophète alayhi salam a utilisé cette expression pour nous indiquer à quel point ça va arriver, yani la rapidité avec laquelle ceci arrivera. Yani elle tombera sur son côté, c'est pour dire qu'elle va mourir tellement rapidement qu'elle n'aura pas le temps de revenir en position droite. Et il a cité dans ce hadith le premier homme sur terre qui sera foudroyé. C'est un homme qui sera en train de s'occuper de ses chameaux et de leur préparer le bassin dans lequel il vient boire de l'eau, s'abreuver, pendant qu'il le répare avec de la terre et qu'il le nettoie, il sera foudroyé et c'est le premier qui sera foudroyé. Et après une longue durée, que Allah connaît, Allah subhanahu wa ta'ala fera descendre une pluie, une pluie légère. At-tal, c'est la pluie légère. Et suite à cette pluie, les gens vont pousser de la terre comme les plantes poussent suite à la tombée de la pluie. Dans la question suivante, il a dit « Quelle est la description du rassemblement ?» quelle est la description du rassemblement des gens ? Ce qu'on appelle « l'hashr ». « L'hashr », ça signifie « al-jama'a ». « Al-jama'a ». Les gens seront rassemblés. Quelle est sa description dans le Coran ? Les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle du rassemblement après la résurrection sont très très nombreux. Comme vous savez, c'est un des sujets les plus importants. Parmi les trois sujets qui étaient le plus abordés, surtout dans les sourates mekkoises, vous avez tout d'abord le point qui concerne la foi et l'unicité d'Allah. Et le deuxième sujet, c'est la véracité du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le troisième sujet, c'est la résurrection après la mort et le rassemblement des gens et les comptes qui seront rendus et les gens qui seront jugés, puis rétribués, chacun selon ses œuvres. Ça, c'est les trois grands sujets qui sont abordés dans les sourates mekkoises. Comme vous savez, les sourates mekkoises s'adressent principalement à des mécréants. Et ça nous enseigne la méthodologie pour appeler quelqu'un à l'islam. Pour appeler un mécréant à l'islam, on ne commence pas à lui parler des points secondaires et élémentaires de la religion. On lui parle des fondements, surtout ces points-là, à savoir la foi en Allah et le monothéisme, yani on l'invite à connaître son Seigneur, à connaître son Créateur. Et aussi on lui rappelle que son existence ne va pas prendre fin et ça se termine là. Ça, c'est inimaginable. Et ça s'oppose totalement à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi la prophétie et les signes et les preuves de la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous l'avais déjà cité plusieurs fois, il y a un signe rationnel, il y a une preuve rationnelle que chacun d'entre nous peut citer. Yani un homme qui appelle, un homme qui dit qu'il est prophète d'Allah. Un homme qui dit qu'il est prophète d'Allah. Ou bien c'est l'homme le plus véridique. Ou c'est l'homme, c'est le plus grand menteur. Et c'est le plus grand imposteur. Celui qui prétend qu'il est le messager d'Allah, ou bien c'est l'homme le plus véridique. Ou c'est le plus grand des menteurs. Il n'y a pas une autre hypothèse. Car c'est le plus grave des mensonges, si jamais c'est un mensonge. Et il faut savoir que même un fou, il arrive facilement à faire la distinction entre l'homme le plus véridique et le plus grand des menteurs. C'est tellement facile de faire la différence entre les deux. Et ça, c'est parmi les arguments rationnels. Il y en a plusieurs. Et il y a aussi des arguments tirés de le Coran et de la Sunna. Lakin avec le kuffar, on ne va pas citer les arguments tirés de le Coran et de la Sunna parce qu'ils ne croient pas au Coran. Ils ne croient pas que le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc, on a besoin d'utiliser des arguments rationnels avec eux. Que ce soit au sujet de l'unicité d'Allah, on utilise les arguments rationnels qui démontrent l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Et ces arguments rationnels sont mentionnés dans le Coran. Il y a plusieurs arguments rationnels qui sont mentionnés dans le Coran. Cheikh Saadi Rahimallah a fait un ouvrage très concis dans lequel il a cité plusieurs arguments rationnels qui démontrent l'unicité d'Allah. Et parmi les arguments de l'existence d'Allah, c'est ton existence à toi. C'est impossible que tu existes sans qu'il y ait un être premier qui t'a donné existence et que lui n'est pas créé. Lui, il est éternel. C'est nécessaire que ce soit comme ça. Et ce n'est pas possible autrement. D'un point de vue rationnel, ce n'est pas possible autrement. Car si celui qui t'a donné existence, c'est une créature comme toi, elle aura besoin d'un créateur qui l'a créé. Et si ce créateur a été créé, il aura besoin d'un créateur qui l'a créé. Et on va tourner en rang comme ça, et tu n'existeras jamais. Pour que tu existes, c'est obligé qu'il y ait un être premier, un créé, qui t'a créé. Il donne l'exemple de la balle. Si on ordonne à un policier d'exécuter une personne en tirant une balle, et on lui dit « tu ne tires la balle que quand tu reçois l'ordre de ton supérieur ». Et son supérieur, il ne doit pas lui donner l'ordre à l'autre, il ne doit pas lui donner l'ordre jusqu'à recevoir l'ordre de son supérieur. Et ainsi de suite, à l'infini. Si on suppose que ça arrive à l'infini, la balle ne sera jamais tirée. Lakin, si jamais tu vois la balle tirée, tu sauras avec certitude qu'on est arrivé à un supérieur qui donne l'ordre et qui n'attend l'ordre de personne. Forcément, il faut que tu arrives à cette étape. Sinon, la balle ne sera jamais tirée. Et ce pauvre ne sera jamais exécuté. Et donc, ton existence, c'est déjà une preuve de l'existence d'Allah, le Créateur absolu, le Créateur incréé, éternel, qui a toujours existé et qui existera toujours. Donc c'est intéressant de se pencher sur ce sujet et de maîtriser des arguments rationnels et de les utiliser avec surtout les athées. Car l'athéisme, c'est la religion la plus fragile. Et c'est la religion la plus faible. Et c'est la croyance la plus facile à démonter. Un athée, bien évidemment, l'athéisme, c'est une religion. Il faut savoir que c'est une croyance. Et c'est une religion. C'est pour ça ils croient en beaucoup de choses, les athées. C'est juste qu'ils ne croient pas en Allah. Et un athée, il est prêt à croire en tout, sauf Allah. Il croit qu'il y a des ovnis, des extraterrestres, qui sont venus sur Terre, qui ont tout créé, qui ont créé la vie. Il ne les a jamais vus. Et ça ne lui pose pas de problème. Ça ne s'oppose pas avec son esprit scientifique expérimental. Car lui, il a besoin de tout expérimenter pour avoir la foi. S'il n'expérimente pas, alors, ce qui n'est pas expérimental, il ne peut pas y croire. C'est bête pour lui. C'est du suivi aveugle. Et pourtant, tu vas trouver qu'il croit en énormément de choses qu'il n'a jamais testées, qu'il n'a jamais touchées dans sa vie. À commencer par le courant électrique, à aussi la gravité, et énormément de phénomènes. Il croit en tout ça. Il les a jamais vus, il les a jamais touchés. Vois son problème en réalité. Et ça, subhanallah, quand je l'ai compris, ça a résolu beaucoup de problèmes en moi. Et ça a répondu à beaucoup de questions en moi. Yani, tu vois la clarté de la religion, de l'islam, et son authenticité, et sa pureté. Et tu te dis comment les gens ils veulent pas croire. Mais en réalité, tu te rends compte que ces gens-là, ils sont déterminés à ne pas vouloir croire. Il a une conviction dans sa vie, il ne veut jamais croire. Il ne veut jamais se soumettre à Allah. C'est ça la conviction qu'il a dans sa vie. Et c'est pour ça, comme je vous ai dit une fois, en discutant avec quelqu'un de très intelligent, de très qui a étudié beaucoup de sciences, parmi le koufar, et on est arrivé à un point, même j'ai utilisé une méthode où il a pu parler avec un djinn. Parce qu'il y avait une personne touchée à côté de lui. Il a vu que ce n'était pas lui. C'est un autre être en lui. Et suite à cela, je lui dis, si tu sais, et j'ai vu qu'il persistait à ne pas vouloir croire. Mais évidemment, il est devenu tout pâle. Il a eu extrêmement peur de ce qu'il a vu. C'est des phénomènes. Au début, quand on ne connaît pas, Yani, ça peut faire peur ou la donner une petite frayeur. Et à la fin, je lui dis, si jamais tu apprends aujourd'hui avec certitude que l'islam c'est la vérité, est-ce que tu deviendras musulman? Il a dit non. Je lui dis, toi, tu m'as. Yani, avec toi, j'ai compris beaucoup de choses. Yani, cette personne est déterminée à ne pas vouloir croire, même s'il voit que c'est la vérité. Il ne veut pas croire. Alors que c'est une évidence d'avoir la foi. Il n'y a pas besoin de faire un argumentaire pour démontrer l'existence d'Allah. C'est évident. Il n'y a qu'un fou qui ne va pas croire, qui croit qu'il n'y a pas Allah. Quelqu'un qui n'a pas sa raison. Il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est seulement cette catégorie de gens qui ne vont pas croire réellement. T'imagines, tu dis à quelqu'un. J'ai posé le seau de peinture chez moi et après j'ai fait que tous les murs ont été peints tout seuls. Il va te dire, t'es un fou, là t'es un menteur. C'est pas possible. Il a raison. Ou bien je mens ou là je suis fou. Et toute cette création, c'est venu de nulle part. Il l'admet pas par rapport à un mur qui a été peint. Par rapport à une étiquette qui a été posée sur un mur. Il ne l'admet pas. Et toute cette création parfaite et harmonieuse, c'est l'œuvre de personne? Comment admettre une chose pareille? C'est pour ça, Allah Azza wa Jalla, il a dit à son prophète dans le Coran, il lui a dit, فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Il lui a dit, les kuffars, ils ne croient pas que tu es un menteur. Ils savent que tu es un homme véridique. Tu étais un homme véridique durant toute ta vie pour eux. Ils savent que tu mens pas. Lakin, ils ne veulent pas croire. C'est aussi simple que ça. Parce que la religion, des fois, elle peut s'opposer avec leurs intérêts personnels. Ces gens-là, c'était des dignitaires. Et s'il entre en islam, il va devenir un musulman comme tous les autres. Yani, la distinction entre les croyants, ce n'est pas avec les origines, ou la couleur de peau, ou la richesse. C'est avec la piété. C'est avec la science et la mise en pratique de la science. Donc, ils vont perdre tous leurs avantages. C'est, pour certains, c'était ça la raison. Et pour d'autres, ils voulaient que ce soit eux qui reçoivent la révélation. Comme un parmi les célèbres poètes de la période anti-islamique. Ils disent que c'est un poète qui avait le monothéisme avant l'islam. Lakin, le Nabi Islam, il aimait entendre ses poèmes. Il demandait aux gens de lui citer quelques-uns de ses poèmes. Parce qu'il y avait du pur monothéisme dans ses poèmes. Lakin, quand il a su que le Nabi Islam a reçu la révélation, il a mécru. Parce qu'il voulait lui recevoir la révélation. D'autres, comme Héracle, César, est-ce qu'il n'a pas vu la vérité devant lui? Il l'a vu devant lui. Il a su que c'était un prophète. Il a dit, s'il était à mes côtés, j'aurais embrassé ses pieds. Il a su que c'était un vrai prophète. Il a posé, c'est un hadith, c'est un magnifique hadith que je vous invite à lire. Hadith, le discours qu'il y a eu entre Abu Sufyan et Héracle. Quand il a reçu le message du prophète dans lequel il appelle à l'islam, il leur a dit, est-ce qu'il y a des gens de sa tribu? Et ils lui ont trouvé Abu Sufyan, un mécréant, qui déteste énormément le prophète et qui va entrer en islam par la suite. Et il lui a posé des questions précises, parce que les gouverneurs de l'époque, et ceux qui dirigeaient les nations avant, c'était des hommes de science. C'est pas comme à notre époque. Où t'as, chez le kuffar, surtout, tu peux avoir des gens, mais d'un niveau intellectuel extrêmement bas. Tu sais pas, Ada, il dirige le pays le plus fort de la Terre aujourd'hui. Un abrutisme, une stupidité incroyable. Le gars, il ne sait même pas ce qu'il dit. Il ne contrôle pas son discours. Comme s'il est dans un jeu ou la marche. En tout cas, ce n'était pas le cas avant. Avant, ceux qui dirigeaient les nations, c'était des hommes de science. Et Héracle, c'était un homme de science. Il a posé des questions précises, il a su que c'était le vrai prophète. Car il est mentionné dans leurs écritures. Ils le connaissent mieux que comment ils connaissent leurs enfants. Ils peuvent douter de leurs enfants, mais ils ne peuvent pas douter du prophète alayhi salam. Mais malgré cela, il a proposé aux gens proches de lui d'entrer en islam. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé d'abandonner leur religion chrétienne. Il a eu peur de perdre son pouvoir. Contrairement au Négus, Majashi, le dirigeant de l'Éthiopie ou là de l'Abyssinie. Lui, il est entré en islam, mais il a caché sa religion. Car son entourage ne voulait pas de l'islam non plus. Donc lui, il est entré en islam. Et quand il est décédé, le prophète a fait sur lui la salat, sur le mort. Donc il dit... quelle est la description du rassemblement du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et il a cité plusieurs versets. Le premier verset, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approximatif, voici, vous voici venu à nous seul, comme au moment de votre première création, ayant laissé derrière vous tout ce que nous vous avons accordé. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Aussi Allah Azza wa Jalla dit وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمُ أَحَدًا. Aussi dans qui donne un sens proche, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approximatif, nous les avons rassemblés tous sans négliger un seul individu. Tous ont été rassemblés. Personne ne fera exception. Dans d'autres versets, yani, comme ce qu'il a cité, rahimahullah ta'ala. Donc Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Donc les créatures reviendront vers leur Seigneur, ils seront rassemblés vers leur Seigneur, tous, et chacun viendra seul. Et le rassemblement aura lieu après la résurrection. Après la résurrection. Quelle est sa description tirée de la sunna du prophète alayhi salam dans la 114e question? Il a cité un hadith al-Nabi alayhi salam dans lequel il dit « يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقِ رَاغِبِينَ رَاغِبِينَ وَثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ » ainsi de suite. Donc ce premier hadith que l'auteur rahimahullah a cité ici, dans lequel il y a une description du rassemblement, comme a dit Cheikh Najmi rahimahullah dans son explication, il a dit ce hadith ne concerne pas le rassemblement après la résurrection. Ce hadith concerne un rassemblement qui aura lieu vers la fin des temps, où les gens seront rassemblés, conduits par un feu, à dos de chameau, car il n'y a pas de rassemblement à dos de chameau dans l'au-delà. C'est pour ça que ce rassemblement, c'est un rassemblement qui aura lieu dans cette vie, et non pas dans l'au-delà. Et les deux autres hadiths qu'il a cités concernent le rassemblement après la résurrection. Le premier rapporté selon Anas ibn Malik, il a dit, un homme a dit au prophète alayhi salatu wassalam, comment le mécréant sera rassemblé sur son, et marchera sur son visage. Le kafir marchera sur son visage. Le Nabi alayhi salam lui a dit أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيهِ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Lui a dit, n'est-ce pas celui qui l'a fait marcher sur ses pieds dans ce bas monde est capable de le faire marcher sur son visage dans l'au-delà? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toute chose. Et ça, c'est une humiliation et un châtiment pour ce mécréant qui va marcher sur son visage. Subhanallah. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam innakum mahshuruna hufatan uratan ghurlan. Également parmi les hadiths qui ont été rapportés au sujet du rassemblement et certaines de ses caractéristiques, ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les gens seront rassemblés pieds nus et dévêtus, c'est-à-dire ils seront complètement nus. Ghurlan, et ils seront non circoncis. Ils seront non circoncis. Et ensuite, le prophète a lu le verset dans lequel Allah dit « Kama bada'na awwala khalqin nu'idu » Vous serez créés une deuxième fois comme on vous a créé la première fois. C'est-à-dire, ils seront rassemblés comme Allah les a créés la première création. Et Allah nous a créés non circoncis. On est sorti du ventre de nos mères sans vêtements, les pieds nus et sans circoncision. Donc on sera créé dans le même état. Et ensuite, le prophète a dit, le premier homme qui sera vêtu le jour de la résurrection, c'est Ibrahim. Ibrahim, alayhi salam. Le premier homme qui sera vêtu. Et chacun sera vêtu selon son niveau de foi. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك إكو عائشة رضي الله عنها elle a entendu ce hadith. Regardez, يعني, quelle est la question qu'une femme se posera en entendant ce hadith aujourd'hui. عائشة رضي الله عنها elle entend le prophète عليه السلام dire les hommes, les gens seront rassemblés tout nus. Qu'est-ce qu'elle se pose comme question, à votre avis? Yani, tous les hommes, ils seront ensemble dans le même endroit, ils seront tout nus. Le jeune homme qui est devant toi, sur la chaise. Devant, le plus jeune. Le plus jeune de l'assise. Alors, qu'est-ce que tu te poseras comme question si tu entends que tous les gens seront dans une pièce et tout nus? Yani, qu'est-ce qu'une femme va se poser comme question? Qu'est-ce qui puisse la déranger dans cette situation? Hein? Exactement. Très très bonne réponse. Regardez la pudeur de ces femmes. Ce n'est pas une pudeur seulement dans ce bas monde. C'est pour ça que Nabi A.S. quand il a enseigné aux femmes de, en portant leur voile, de ne pas le laisser traîner derrière elles plus d'une coudée. Grand maximum, de le laisser traîner, il touche le sol, un empan, deux empans, mais pas plus d'une coudée. Une femme a dit au messager d'Allah, si je laisse traîner mon tissu, que d'un empan, une partie de mon corps peut se découvrir quand il y a du vent. Elle veut le laisser plus long. L'attachement à la pudeur. Un autre exemple, cette femme noire qui était touchée par un djinn, qui l'a torturée. Une femme qui était touchée par un djinn qui l'a torturée. Elle est venue voir le Nabi, elle lui dit, ô messager d'Allah, invoque Allah pour que je sois guéri de ce mal, un mal occulte. Il lui a dit, si tu veux, j'invoque Allah, tu seras guéri. Et si tu veux, tu patientes et tu auras le paradis. Elle a dit, ô messager d'Allah, je patiente. Lakin, invoque Allah pour qu'il ne me découvre pas pendant ma salat. Elle peut patienter face à la douleur, face au mal, lakin, elle ne peut pas patienter face au fait qu'une partie de son corps soit découverte. Et en plus, peut-être que ça arrive chez elle, toute seule. Lakin, elle ne peut pas supporter ça. Ça, c'est la pudeur des femmes. Et la pudeur, c'est une des plus grandes qualités des femmes. Une femme qui perd sa pudeur, elle a perdu l'essentiel de sa féminité. C'est une chose d'une grande importance pour la femme. Et pour l'homme également. Lakin, pour la femme, c'est encore plus important. Et vous savez le degré de pudeur qu'avait notre prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont dit dans sa description qu'il était plus pudique que la jeune fille qui n'a jamais été mariée. Et ça, pour le comprendre, faut pas le comprendre à la lumière de notre époque. Une jeune fille qui n'a pas été mariée, elle peut aller aujourd'hui parler avec des hommes. Lakin, une jeune fille qui n'a jamais connu les hommes à leur époque, en général, elle se tient chez elle. Elle est extrêmement pudique. Elle voit un homme, et ça, tu peux le voir encore aujourd'hui si tu vas dans des villages, dans les pays de l'islam. Les gens qui habitent dans les montagnes, elle voit un homme, elle court chez elle. Il y a une pudeur. Et Nabi Aslam, il était encore plus pudique que ces jeunes filles-là, qui n'ont jamais été mariées. Là, la femme, quand elle se marie, elle apprend à connaître les hommes, c'est pas la même chose. Donc Aïcha radiallahu anha, quand elle a entendu ce hadith, elle a dit au messager d'Allah, comment les femmes et les hommes seront rassemblés et tout nus? Les uns vont regarder, se regarder les autres. Elle a dit, oh Aïcha, l'affaire sera plus dure et pénible que quelqu'un puisse regarder l'autre. Yani chacun aura une occupation encore plus grande que de regarder l'autre, yani qui n'est pas couvert. C'est pas ça la préoccupation des gens ce jour-là. Et ensuite, dans la question suivante, il a parlé de al-mawqif, ce qu'on appelle al-mawqif. Yani, quand les gens seront rassemblés, ils vont rester pendant un certain temps, rassemblés en attendant le début du jugement. En attendant le début du jugement. Donc, des versets de le Coran qui décrivent cette station, ce mawqif. Il a cité le premier verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne crois surtout pas qu'Allah soit inattentif aux agissements des impies, aux agissements des injustes, auxquels il accorde simplement un sursis, jusqu'au jour où les regards des hommes resteront figés. Jusqu'au jour où les regards des hommes resteront figés. مُهْطَعِينَ مُقْنِعِ رُؤُسِهِمْ. Et où ces derniers se précipiteront vers le lieu de leur jugement. Tête dressée, les yeux exorbités et cœur désemparé. Et leurs cœurs seront désemparés à cause de la dureté de ce qu'ils vont voir devant eux. Ils vont voir l'enfer devant eux. Et au sujet de cette station, Allah subhanahu wa ta'ala dit « يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّةً » Le jour où Jibril se mettra en rang avec les autres anges et personne ne parlera ce jour-là qu'avec la permission du Tout Miséricordieux. Et il ne dira pas ce qu'il veut, il dira que la vérité. Personne ne parle ce jour-là qu'avec la permission d'Allah. Et ceux qui vont parler, ils vont dire uniquement la vérité. Donc ça aussi, c'est parmi les descriptions de ce jour, de cette station. Et à son sujet, Allah a dit « Fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfa sana » Un jour qui va durer 50 000 ans. Un jour qui va durer 50 000 ans. Dans son explication, Cheikh Najmi Rahimullah dit, les gens seront dans cette station devant Allah subhanahu wa ta'ala en attendant le début du jugement. Et c'est parmi les stations les plus pénibles et les plus difficiles pour les créatures. Car ils voient devant eux le paradis et l'enfer, et ils voient le châtiment d'Allah, et ils ne savent pas dans quelle demeure ils vont être. Donc cette attente est très pénible. Pour te rapprocher de cette attente, regarde quand t'attends les résultats d'un examen important dans ta vie. Cette période d'attente est plus difficile pour toi que la période d'examen elle-même. Et donc les gens ils vont rester dans cette station en attendant le début du jugement. Et c'est là où ils vont se diriger vers les meilleurs des prophètes en leur demandant d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour démarrer le jugement. Ils vont se diriger tout d'abord vers Adam alayhi salam ensuite vers Nouh, ensuite vers Ibrahim, ensuite vers Moussa, ensuite vers Isa, et à la fin ils se dirigeront vers Muhammad, alayhi salatu wassalam, tous, et c'est lui qui va intercéder. Et avant d'intercéder, il ne pourra pas intercéder de lui-même. Il viendra, il se prosternera devant le trône d'Allah. Il restera dans cette prosternation, à louer Allah subhanahu wa ta'ala et à faire ses louanges jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la permission de lever sa tête et de formuler sa demande. Il demandera à Allah de commencer le jugement. Donc, ce jour-là, le soleil sera très proche des gens. Regardez la distance qui nous sépare du soleil aujourd'hui, sur Terre. Et malgré cela, les températures qu'on puisse subir, surtout en été. Alors que dire quand le soleil sera très très proche de nous? Il y a une toute petite distance. Et où les gens vont tellement transpirer, suer, chacun selon son cas. Chacun selon ses œuvres. Il y en a qui vont baigner complètement dans leur sueur. Il y en a à qui la sueur va arriver au niveau des oreilles. Il y en a au niveau du nombril. Il y en a au niveau de la cheville. Et il y en a qui seront ce jour-là sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment les 7 catégories que le prophète sallam a mentionnées dans le hadith. Le gouverneur juste et équitable. Le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Deux hommes qui se sont aimés en Allah. Et qui se sont séparés dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un homme qui a été invité à commettre la fornication par une belle femme et il l'a refusé par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, c'est un jour qui va durer 50 000 ans, comme Allah a dit dans le Coran. Et combien de temps va durer la station? Il y en a 50 000 ans, c'est la durée de tout ce qui va se passer ce jour-là. À savoir la station, le rassemblement, la station, le jugement. Yani, l'ensemble va durer 50 000 ans. Et combien va durer la station d'attente? Cheikh Najmi Rahimullah a dit, ça durera la moitié d'une journée de l'akhira. Et une journée dans l'au-delà, c'est 1000 ans de dunya. Une journée dans l'au-delà, c'est 1000 ans dans ce bas monde. Et donc, la station va durer une demi-journée seulement. Ce qui est égal à 500 ans. 500 ans. Ils resteront dans cette station 500 ans. Après, Allah subhanahu wa ta'ala va démarrer le jugement. Nas'alullah salam al-afiyah. Nas'alullah salam al-afiyah. On demande à Allah de nous préserver. Et de la sunna, au sujet toujours de ce point de la station, Cheikh a cité Hadith ibn Umar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset, Yawma yaqoumu an-nasu li rabbil alamin. Yawma yaqoumu an-nasu li rabbil alamin, dans sourate al-Mutaffifin. Ou sourate al-Mutaffifin. Donc dans le sens approximatif, le jour où les hommes comparaîtront devant le Seigneur de la création. Le jour où les gens comparaîtront devant le Seigneur de la création. Le prophète sallam a lu ce verset et ensuite il a dit يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِي إِلَا أَنْصَافِ أُذْنِي. L'un d'entre eux, la sueur lui arrivera au niveau des oreilles. Donc, ça c'est un hadith qui concerne cette station. Et donc nous allons, inshallah ta'ala, nous arrêter sur ce point et on commencera notre prochain cours, bi'idnillah, avec la 117e question où l'auteur a parlé du jugement du fait de comparaître et d'être présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, inshallah, ça sera notre dernière rencontre avant le début du mois béni de Ramadan, si Allah nous le permet. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.